Radio Foot International.
Antoine Grenier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être fidèles à Radio Foot International. Après la Mauritanie hier, retour en Europe aujourd'hui avec évidemment la plus belle des compétitions, la Ligue des Champions, les huitièmes de finale. On connaît les affiches depuis hier et le tirage au sort. La fièvre monte déjà dans les billetteries et notamment du côté du stade Santiago Bernabéu. Le Paris Saint-Germain s'y rendra mi-février pour un choc plutôt prometteur, mais on ne sait plus trop qui doit avoir peur de l'autre. On tentera d'y voir plus clair avec vous. Naïm Moniol, salut Naïm.
Salut Antoine. Salut à tous.
Venu spécialement d'Eurosport pour l'émission Un tirage au sort où les clubs anglais ont finalement expérimenté ce que c'était que d'être Didier Deschamps, sortir de la salle plutôt satisfait du prochain adversaire. On verra comment on dit Deschamps en anglais et puis on parlera de Ligue Europa. On s'intéressera surtout aux équipes françaises avec Dominique Sévrac du Parisien.
Bonjour Antoine, bonjour à tous.
On verra que pour l'OM, Lyon et Nice, c'est bien, mais pas top, non, c'est ça?
Oui, pas terrible.
On va dire ça. Et puis on finira sur le foot anglais, on se demandera si José Mourinho n'est pas le plus gros mauvais joueur de l'histoire du football. On attend Bruno Constant qui peut éventuellement nous éclairer. Moi j'ai une idée de la réponse, hein. Dommage que Rémi Ngono ne soit pas là, mais à la place de Rémi, on a le réfet Alejandro Valente. Bonjour Alejandro.
Bonjour Antoine, bonjour à tous.
David Finzel est à la direction d'orchestre, Guillaume Ploquin aux platines. Radio Foot, c'est que du foot, mais c'est sur RFI. La Ligue des Champions, donc rien que prononcer le nom, ça fait frissonner un petit peu. Hein. Le tirage au sort, donc c'était hier pour connaître les huitièmes de finale. On n'a pas été déçus, on aura droit donc à ce fameux Real Madrid-Paris Saint-Germain. Et ça ravive déjà quelques souvenirs.
Attention à la frappe de Toni Kroos.
C'est pas fini.
C'est Nacho qui, en prenant ce ballon, vient tromper Trapp. Parti, on ne sait où. Il a offert l'ouverture à Nacho.
Avec un coup franc que va tirer Vallo. Ouéa est devant le but.
Campoiré aussi.
Campoiré aussi, il est monté tellement.
Ouais, Nacho en premier, ça c'était pour les amateurs du Real, ce but en 2015, il a toujours pas compris comment il avait fait, d'ailleurs, pareil.
Bah si, il y avait Trapp dans les buts, donc il a compris.
Ça aide,
forcément.
Comme quoi. Et puis derrière Antoine Comboiré, on a remonté un peu le temps, c'était en mars 93, c'était une autre Coupe d'Europe, c'était la Coupe de l'UEFA, une superbe tête. D'ailleurs, et puis le Real PSG, donc une affiche de rêve. Pour resituer un peu, on a d'un côté Paris qui a été l'équipe record de la phase de groupe, 25 buts marqués, aucun encaissé jusqu'à la cinquième journée, on verra que ça a son importance. Et puis de l'autre côté, Real qui a galéré, on peut le dire, dans un groupe normalement à sa portée. On va commencer par le plus hispanophone d'entre nous.
Qui est-il ?
Real, Paris Saint-Germain, finalement, c'est une affiche de rêve, on peut le dire.
Ah, c'est une affiche de rêve, et je pense que pour les huitièmes de finale, on attendait quand même d'avoir un tel choc. Je pense que pour le Real, c'est pas forcément un bon tirage, c'est clair, même si c'est pas le genre de la maison d'avoir peur. Pour le Paris Saint-Germain, ça sera un bon tirage s'ils passent au tour suivant, sinon ils voudront peut-être se dire qu'ils sont maudits face au club espagnol, notamment en huitièmes de finale. On a le souvenir de Barcelone l'année dernière. Mais je pense que c'est plutôt pas mal pour le PSG. Le Real, on peut pas dire qu'il est prenable, mais enfin, le Real semble beaucoup moins fort qu'il y a un an. Et je pense qu'il y a la place pour qu'une équipe comme le PSG... Techniquement, les deux équipes sont assez proches l'une de l'autre. Après, le mental, c'est pas forcément la même chose. Mais je pense qu'il y a un match et que ça va être très serré.
Ouais, pas de raison donc.
Et j'espère qu'il y aura un Comboiré à Paris Saint-Germain, nouvelle génération qui
Kimpembe.
On verra qui
sera tomber le sort du bon côté.
Je fais pas le suspense tout de suite, Dominique. Mais on va écouter quelqu'un qui n'a pas peur du côté du Real, qui a pas peur, mais voilà, pas trop rassuré quand même.
Ils ont fait jusqu'à maintenant des trucs extraordinaires. Je pense qu'ils ont joué comme tu dis, si, je sais pas combien de buts, mais combien de victoires aussi. Donc bon, voilà, c'est une équipe qui est en train de faire des choses hallucinantes. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire sur ça.
Allez, on va d'abord Salut, et Bruno Constant qui vient de nous rejoindre.
Bonjour Bruno.
Salut Bruno.
Bonjour monsieur. Désolé pour ce retard.
Légèrement en retard. Bon, Dominique Sévrac.
Oui, bonsoir.
On vient d'entendre Zinedine Zidane. On le sent quand même un peu gêné au moment de parler du Paris Saint-Germain.
Bah, disons que les investissements offensifs du PSG, Neymar et Mbappé, Mbappé, un joueur que le Real voulait et qui Zidane a repéré, qu'il a tout de suite vu que c'était un joueur prometteur. Bon, 7e au Ballon d'Or, voilà, ça c'est déjà impressionnant. Donc voilà, il y a des Dani Alves, il y a deux Barcelonais dans cette équipe qui vont rappeler, qui vont donner un petit parfum de classico à ce match-là. Après, pour moi, le Real est archi favori, double tenant du titre. Je vois pas comment, pour moi, ça serait une énorme surprise que le Real soit sorti de la Ligue des Champions. C'est possible. Paris peut le faire, évidemment. S'il gagne 5-0 à l'aller, hein. Parce que on sait qu'avec les remontadas, il faut gagner 5-6-0
oui,
avec
mais
le PSG.
Là, le match retour, c'est au Parc.
Oui, mais ouais. Bon, il faut que le Paris Saint-Germain ait gagné à Bernabeu 5-6-0, sinon,
même là, t'auras peur.
Oui, mais c'est très, très simple, gagner 6-0 à Bernabeu où tout le monde
non,
le sait.
Je plaisantais par rapport à la remontada de la saison dernière, voilà, moi, je pense que le Real d'aujourd'hui n'aura rien à voir avec le Real qu'on va avoir en février sur des matchs coup près avec, un Cristiano Ronaldo qui sera, voilà, exceptionnel. Et forcément, ce qu'il faut savoir, mais ça on ne peut pas le deviner, c'est qu'il sera absent. Il y a toujours un ou deux joueurs absents. Si vous n'avez pas Benzema d'un côté, si vous n'avez pas Cavani de l'autre, Carvajal déjà est suspendu pour le match aller. Après, si vous n'avez pas un joueur important, par exemple le banc du PSG me paraît aujourd'hui, après je ne sais pas ce qui va se passer au mercato d'hiver, me paraît aujourd'hui plus important, plus fourni que le banc du Real, notamment en défense, par exemple. Voilà. Mais bon, pour moi, le Real est archi favori.
Naïm.
Archi favori, je sais pas, mais j'irai pas jusque là. J'ai pas l'impression que l'écart footballistique soit abyssal entre les deux. Maintenant, on va pas se voiler la face, hein. C'est le pire tirage pour le PSG, jouer le Real Madrid, double tenant du titre, avec tout ce que ça peut comporter d'individualité, d'histoire et compagnie. Mais j'ai pas l'impression que footballistiquement, notamment sur le secteur offensif, les deux équipes soient à des années-lumière l'une de l'autre. Ce que Cavani montre, ce que Mbappé arrive à montrer en Ligue des Champions, on l'a vu vraiment très très peu au Real Madrid. Après, Alejandro l'a souligné, ça va être l'impact psychologique. C'est d'un côté, vous avez un Ramos qui, quand ça va pas bien, eh ben, excusez-moi, les met sur la table et puis il fait le job. Et puis d'un autre côté, vous avez un Thiago Silva qui pleure, qui chouine, qui va voir l'arbitre. Donc voilà, la dimension psychologique de ce match va être très importante. Soit on décide d'avoir peur de se laisser faire, de venir la culotte baissée, et là Paris va revivre la remontada. Soit Paris apprend de ses erreurs, a fait des investissements colossaux l'été dernier. Prouve sur le terrain, en tout cas arrive à monter d'un point de vue du jeu à la hauteur de l'argent engrangé, et Paris peut le faire, mais je crois pas que le Real soit archi favori sur ce match.
Même sur le banc, Antoine, hein, il y en a un qui a gagné 3 Ligues des Champions, une comme adjoint, deux comme entraîneur, et l'autre qui a gagné 3 Ligues Europa.
Justement, Alejandro, l'écart footballistique est pas forcément très net. En revanche, l'écart d'expérience du plus haut niveau, hein, on rappelle que le Real est quand même double tenant du titre, celui-là, il est tout simplement gigantesque. Ça va compter forcément.
Ça c'est vrai, mais l'expérience, ça peut aider, mais c'est pas ça qui gagne les matchs. Je pense que on a déjà vu souvent dans l'histoire des équipes qui n'avaient pas beaucoup d'étoiles sur leur maillot à aller renverser des montagnes. Je pense que pour le PSG, ça peut être même un match initiatique, en tout cas un énorme tournant dans son histoire, comme en 93, la victoire face au Real Madrid à l'époque avait aussi marqué l'entrée du PSG dans une autre dimension. Après,
il faut pas oublier quelque chose quand même, c'est que le Real est certes double tenant du titre, il a pas volé ses victoires, mais il a pas non plus survolé les compétitions. Il y a eu des matchs très compliqués contre Naples, même si le score ne reflète.
C'est la Ligue des Champions, hein.
Non, mais c'est la Ligue des Champions, je veux bien, mais bon, voilà, tu dis archi favori. Non, il y a eu des matchs face à des équipes prétendues plus faibles que le PSG, que le Real a pas maîtrisé, notamment Naples. Contre le Bayern, c'était pas
si crack. C'est la force du Real aussi.
Ouais, c'est la force du Real, mais ce que je veux te dire, c'est que.
C'est ça l'expérience, le vécu.
Faut pas arriver en se disant, merde, c'est le Real, c'est tenant du titre, ils ont tel joueur à telle ligne, tel joueur là-bas, tel joueur, et puis machin sur le banc, on a perdu. Moi, je crois que.
Ça n'arrivera jamais. Pas avec des joueurs comme Neymar. Vous pensez vraiment qu'Mbappé
Bruno, on disait la même chose l'année dernière.
Tu penses vraiment qu'un joueur comme Neymar va arriver sur le terrain en pensant qu'il va perdre? Tu penses vraiment qu'un joueur comme Cavani va aller sur le terrain en pensant qu'on va perdre? Tu penses vraiment qu'un joueur comme Mbappé, qui a montré ce qu'il a montré la saison dernière en Ligue des Champions, va arriver en disant on va perdre? Mais c'est la défense du Real peut avoir peur de ces trois attaquants. Après, le problème de ce genre de rencontre, ça va être au milieu. Et c'est là où le PSG va peut-être pêcher. C'est là où il y a un souci toujours. On a déjà parlé longuement de ce milieu récupérateur qui manque. Mais en dehors de ça, défensivement et offensivement, je pense que les deux équipes sont sur un même pied d'égalité. Il y a des forces des deux côtés, des faiblesses des deux côtés.
C'est ce que je viens de te dire. Ouais. Les deux équipes, il n'y a pas un écart abyssal maintenant.
Mais je vois pas le PSG arriver en disant, oh là là, attention au Real de Madrid. Non, le PSG, ils ont les armes, ils ont investi pour gagner ce genre de compétition.
Ça dépend quel joueur.
Comme Manchester City, comme Manchester United.
Ça dépend quel joueur.
Mais quand on me parle de l'expérience, je pense à 98. Il y avait France-Brésil, on se disait, bon, le Brésil, avec toutes ses Coupes du Monde, tenant du titre, Ronaldo et compagnie, et finalement, ils ont pris 3-0. Donc,
et en plus de ça, l'expérience, si on regarde le PSG, Thiago Silva, Dani Alves, il y a l'expérience. Bah oui, Neymar a l'expérience, oui, il y a l'expérience. Ils en ont aussi de l'expérience.
Les expériences de Thiago Silva, tu peux pas mettre ça sur le même pied d'égalité qu'un Ramos, ne serait-ce que dans l'état d'esprit.
Mais on va pas comparer avec Ramos.
Thiago Silva, on va comparer avec Ramos, parce qu'ils vont se retrouver à contre-l'autre, il y a du monde autour de Thiago Silva.
Il y a du monde sur le. Est-ce que le gardien du Real de Madrid est plus fringant que le gardien du PSG?
Je suis pas sûr. Est-ce que Navas est moins fort qu'Areola ou Trapp?
Dans les grands matchs, je suis pas sûr. Là, Bruno, je suis pas d'accord avec toi.
Il est plus fort que.
Je suis pas sûr. C'est le point faible du Real de Madrid. C'est un des points faibles du Real de Madrid.
D'accord, c'est dire.
On va essayer de pas faire l'éléphant plus fort que l'hippopotame, parce que c'est toujours très très compliqué d'arriver à trouver qui est plus fort que qui. Ce qui est sûr, c'est que du côté du Paris Saint-Germain, forcément affronter le Real Madrid, ça peut permettre de grandir. Maxwell, d'ailleurs, l'ancien latéral du Paris Saint-Germain, ne dit pas autre chose sur ce tirage au sort.
Pour la gagner, il faut affronter tous les grands clubs. On est conscient de ça. Un bel tirage, de beaux matchs à jouer. On est prêt à tout faire pour passer à l'élimination. Ça fait pas trop longtemps qu'on a joué contre le Real. On a bien joué. On a vécu des bons moments aussi dans le parc, dans l'histoire du club contre le Real. Je crois que pour passer une élimination comme ça, il faut faire deux matchs parfaits, avec beaucoup d'intensité. Bien sûr, on a la qualité et on va affronter une équipe grandiose comme le Real, mais avec beaucoup d'envie et beaucoup de joueurs aussi. Ça va être des belles choses, belles affiches à participer.
Dominique, l'an passé, le Paris Saint-Germain avait été complètement rétrogradé par le FC Barcelone. C'était devenu un petit d'Europe après cette fameuse remontada. Jouer contre le Real, ça prouvait qu'il a sa place dans le Gotha européen.
Surtout s'il le bat, parce que bon, jouer, il l'a déjà fait il y a pas longtemps, en 2015 avec
Joué, bien joué.
Voilà, en Laurent Blanc.
C'était en phase d'épaule.
0-0 ouais. Au parc, 1-0 là-bas, donc but de Nacho sur une erreur plus ou moins de Trapp, et puis les attaquants parisiens qui avaient été particulièrement maladroits devant Navas, notamment, je me souviens, Cavani.
Rabiot aussi.
Rabiot avait rentré à la place de Verratti, avait été frappé sur le poteau. Donc oui, c'est le match c'est le huitième de finale que l'Europe va regarder et qui va un petit peu déterminer ce que Paris a dans le ventre. Après, être éliminé contre le Real, pour moi, me paraîtrait assez logique, mais ça dépend du contenu des deux matchs, évidemment.
C'est presque un joker pour Emery, en fait, quelque part.
Naïm, finalement, le Paris Saint-Germain arrive dans la position de celui qui a rien à perdre.
Non, on n'a pas rien à perdre quand on a mis 400 millions d'euros sur le mercato estival, Antoine. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Si, il a à perdre le fait qu'il a beaucoup investi pour rivaliser avec le PSG, pour battre ces équipes-là, et qu'il la bat pas. Comme le dit Dominique, s'il perd, comme il avait perdu contre Barcelone, en faisant deux nuls, en étant bon, en résistant, bon ben voilà, ça arrive. S'il se prend deux gifles, va quand même falloir s'asseoir autour d'une table et réfléchir. Mais d'un autre côté, si vous jouez cette réflexion française, dire, ouais, mais là, c'est le Real, ça arrive tôt dans la compétition. D'abord, quand on a investi autant, on n'a pas peur de jouer le Real. Et deuxièmement, s'il joue le Real en demi et qu'avant ça, il joue Bâle, Beşiktaş, le Shakhtar ou machin, qu'il est bas, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, d'abord, le PSG sera peut-être en quart en demi pour la première fois de l'histoire des Qataris. Mais d'un autre côté, on dira, ouais, mais ça vaut quoi contre les gros, les équipes qu'il a battues? C'est logique, on peut pas vraiment estimer le vrai niveau du PSG, machin. Donc, voilà, il a investi beaucoup pour être un grand d'Europe, qui le prouve sur le terrain, jouer le Real Madrid et la meilleure chose qui pouvait lui arriver dans cette optique-là.
C'est vrai, en même temps, quand on entend Maxwell ou Emery qui dit il faut gagner contre les plus grosses équipes pour gagner cette Ligue des Champions, je suis d'accord, mais en même temps, on a envie de repousser au maximum ce genre de rencontre au dernier tour, en demi-finale et en finale. Et par exemple, le Real Madrid vient de gagner deux fois avec des champions, est-ce qu'on se souvient des adversaires en 2015-2016? C'était la Roma, c'était Wolfsburg et Manchester City. Et c'était des équipes assez faible pour la compétition, et personne s'en souvient, parce que le plus important, c'est quoi? C'est soulever le trophée, de gagner avec des champions. Si le PSG avait eu des tirages très abordables et était arrivé en demi-finale ou en finale, personne n'aurait rien dit.
Au-delà simplement de l'aspect collectif, il va y avoir deux duels. On peut voir le premier, ce serait Ronaldo contre Neymar, une sorte de duel, le quintuple ballon d'or contre celui qui en espère un dans la suite de sa carrière. Ça va forcément compter, Alejandro. Neymar, il doit montrer sur un match comme ça qu'il est un vrai leader et un leader d'une équipe de rang mondial.
Ben c'est pour ça qu'il est venu à Paris, parce qu'il a été fatigué de vivre à l'ombre de Messi. Après, on va voir un Cristiano Ronaldo qui, tout en restant très brillant, a commencé quand même lentement son déclin. On sent physiquement qu'il c'est pas le même Cristiano Ronaldo qu'on a connu dans ses plus belles années. Et d'un autre, un Neymar qui monte en puissance, qui a envie de devenir roi à la place de Messi et Cristiano Ronaldo. Donc pour lui, c'est le scénario idéal. Aller à Bernabeu, montrer qu'il est le vrai patron de cette attaque du PSG, qu'il peut terrasser le Real de Cristiano Ronaldo. Pour Neymar, c'est parfait. Après, si le PSG s'est fait éliminer, il va peut-être se poser des questions début mars. Qu'est-ce qu'il me reste? La Coupe de la Ligue, la Coupe de France, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais je pense que Neymar a très très envie de briller face au Real.
Dominique, vous qui le connaissez bien.
Bah, ils ne sauront pas ce que le Portugal et le Brésil vont faire à la Coupe du Monde à cette époque-là. Donc forcément, ça va être un match déterminant pour le Ballon d'Or, pour cette quête-là. Il sera, si vous éliminez, si Neymar élimine le Real de Cristiano Ronaldo, il va marquer des points considérables, quand bien même ça sera peut-être Mbappé qui fera la différence. Donc oui, c'est vraiment un rendez-vous très important. Et puis il va y avoir une entreprise de déstabilisation qui a commencé un petit peu avec Ramos, puis Florentino Pérez, qu'on dit que s'il n'était pas bien à Paris, ben en tout cas il y a un endroit où il serait bien, c'est le Real Madrid. Ça va monter en puissance jusqu'au match, ça va escorter ça va être formidable.
Naïm.
Bah lui, pour le coup, Neymar, je pense qu'il a un peu plus la pression que les autres, parce qu'il y a eu l'histoire du penalty où il est arrivé un petit peu comme une star. On sait que ses relations avec Emery sont pas très chaleureuses et il est arrivé pour gagner ce genre de match. Hein. C'est lui l'investissement majeur. Donc si jamais il se rate sur un match comme ça, je dis pas que ça va changer le destin d'Unai Emery, par exemple, à la tête du PSG, mais ce qui est sûr, c'est que peut-être qu'on sera un petit peu moins clément avec Neymar à l'avenir.
Alors on l'a un peu esquissé tout à l'heure avec Dominique. Bruno, ça va aussi être un duel de coach, forcément, à ce niveau de la compétition, une fois qu'on sort de la phase de groupe, que la gestion est un peu moins grande. Alors après, c'est des allers-retours, on est d'accord. Et on peut, quand on perd l'aller, on peut perdre le retour. Zidane contre Emery, est-ce qu'il y a match?
Bah c'est compliqué. Ce qui est marrant, c'est quand c'est un entraîneur Emery qu'on a vu peut-être trop beau après ses victoires en Europa League, et puis un entraîneur de l'autre côté qu'on a très vite critiqué parce qu'il avait aucune expérience, et puis qui au final a remporté deux Ligues des Champions coup sur coup. Donc ils ont des trajectoires un peu pas opposées, mais assez étranges. Et évidemment, l'expérience est du côté de Zidane, et la pression est du côté évidemment d'Emery. C'est que Zidane, il a deux Ligues des Champions derrière lui. Donc s'il se fait éliminer, est-ce que c'est un couac? Oui, parce que c'est le Real de Madrid. Mais dans l'absolu, pas tellement. Donc il a un peu moins de pression qu'Emery, qui quelque part récupère un peu un joker, parce que un joker, on ne sait pas s'il sera au PSG à la fin de la saison. Visiblement, a priori non. Mais quand on se fait éliminer par le Real de Madrid, bah ça adoucit un petit peu l'élimination.
Ça dépend comment t'es éliminé aussi.
Oui, évidemment, c'est sûr, s'ils prennent 2-4-0,
si tu prends deux baffes à l'aller au retour et que tes joueurs font comme contre Barcelone, c'est-à-dire qu'ils font l'inverse de ce que tu leur demandes.
Oui, mais ça on le sait pas pour l'instant.
Oui, on le sait pas.
Et pour l'instant, c'est le Real de Madrid, et si le PSG se fait éliminer par le Real Madrid, ben voilà, si je sais pas non plus.
Il y a un enjeu dans ce scandale, puisque donc il y a un Français sur un club bon espagnol et un Espagnol sur un bon Français. Emery est très, pour lui, son image en Espagne est très importante. Il veut être sélectionneur un jour de l'Espagne. Il avait failli être pris à la place de Lopetegui, donc pour lui c'est très important. Et Zidane, c'est le rêve du Qatar. Il a déjà été le promoteur de la candidature pour la Coupe du Monde, et le club rêve de le voir un jour sur le banc. La seule difficulté, c'est qu'il est Marseillais. Il est à Marseille. Pour eux, c'est pas une difficulté, c'est pour Zidane, que ce serait difficile. Marseillais sur le banc de Paris, ça pourrait être mal perçu par rapport à sa famille, à ses amis. Mais voilà, donc chacun joue quelque chose à distance.
Zidane qui vient de sortir d'une période un petit peu plus compliquée, peut-être sa première période vraiment compliquée avec le Real, Alejandro.
Oui, mais d'un autre côté, Emery est plombé. Il n'a jamais entraîné Barcelone ni le Real, donc il a un bilan très négatif contre ces deux clubs. Et c'est un petit peu ce qui pèse sur son image. Il est venu à Paris aussi pour battre un jour Barcelone ou le Real. Bon, pour Barcelone, c'était raté l'année dernière. Là, il faut vraiment qu'il se rattrape face au Real. Mais Zidane, c'est vrai, là on verra comment se termine l'année, mais pour l'instant il est à 8 points le Real Madrid de Barcelone. ils vont pas jouer le week-end prochain, donc ils risquent de se retrouver à 11 points au moment du Classico, donc là il y aura un gros enjeu.
Le FC Barcelone dont on va parler dans la deuxième partie de Radio Foot, forcément, parce qu'ils sont tombés sur un club qui nous rappelle lui aussi pas mal de souvenirs, la confrontation Chelsea-Barcelone, ça a été très intéressant il y a quelques années, et on va en reparler dans la deuxième partie de Radio Foot, ne bougez pas.
Radio Foot International. Antoine Grenier.
Radio Foot, deuxième partie, toujours avec Dominique Sévrac, toujours avec Naïm Moniol, avec Alejandro Valente. On l'a gardé avec nous, Bruno Constant. On lui a demandé de ne pas bouger pour éviter d'être en retard aussi dans la deuxième partie. Et surtout, c'est parce qu'on va parler un petit peu d'Angleterre, de club anglais, notamment de Chelsea, qui au tirage au sort pour ses huitièmes de finale de Ligue des Champions est tombé, pas sur n'importe qui, sur le FC Barcelone. Là aussi, on a gardé quelques images en mémoire, notamment une, celle d'un attaquant ivoirien pas content du tout. C'est court, mais c'est clair. Voilà, it's a fucking disgrace, Didier Drogba, après l'élimination de Chelsea par Barcelone en 2009. Un souvenir, forcément, on s'imagine que les Blues y ont pensé à ce match-là au moment du tirage au sort, Bruno.
Ouais, enfin, il y a beaucoup d'histoires entre ces deux clubs. Faut remonter même à 2005, le but formidable de Ronaldinho. 2009, il s'est passé énormément de choses. Et évidemment, ce match retour avec le coup de poignard d'Iniesta en toute fin de match. Et puis surtout les décisions arbitrales qui avaient été, faut reconnaître, assez scandaleuses.
C'est ça.
Et deux pénaltys oubliés flagrants pour les Blues. Enfin, c'était assez étrange comme ambiance. Et du coup, ça a vraiment ajouté une tension entre ces deux clubs, entre ces deux équipes. Alors évidemment, du côté de Chelsea, il reste plus grand monde. Mais c'était la vieille équipe de Chelsea, celle qui était allée jusqu'au titre en 2012. Mais ça rappelle des souvenirs. Il y a la qualification justement en 2012 pour le titre, où ils se qualifient au Camp Nou avec un but de Ramirez et un but de Fernando Torres en toute fin. Ils avaient défendu dans leur camp. Donc c'est les deux équipes ont beaucoup changé, et surtout du côté de Chelsea, parce que le Chelsea de cette saison n'est pas le Chelsea de la saison dernière, qui était compact, qui était solide, qui était très redoutablement efficace. Cette saison, il y a un peu plus de mal. Ils se sont inclinés sur le terrain de la Lanterne Rouge ce week-end à West Ham. C'est assez curieux, un petit peu comme on parlait du PSG Emery, Conte fera pas de vieux os, a priori il partira à la fin de la saison.
Il a même quasiment annoncé qu'il retourner en Italie.
Ouais, c'est plusieurs fois qu'il tend des perches, donc ça va être intéressant comme choc.
Chelsea, Dominique, en Ligue des Champions, c'est très rarement gagnant. C'est parfois placé, mais pas souvent non plus. C'est pas forcément une compétition qui leur sourit particulièrement aux Blues.
Non, c'était ça a mis 9 ans avec Abramovich entre le rachat et la victoire.
Ça montre d'ailleurs au PSG le temps qu'il faut pour arriver jusqu'en haut. Hein.
C'est long pour 9 ans. Très, très 9 ans, c'est beaucoup trop long pour eux.
Sans assurance d'y rester d'ailleurs, parce que depuis.
De l'inconvénient des deuxièmes en fait, depuis le début de l'émission. Le Real est pas content d'avoir pris le PSG. Chelsea est pas content d'avoir pris Barcelone. Bah oui, mais c'est faut bien qu'il y ait un peu de piment parce que tout est fait pour protéger un peu tout le monde dans ce genre de compétition, y compris, on en parlait, là il y a 5 clubs anglais parce qu'il y en a un qui a gagné la Ligue Europa, donc il est reversé, ainsi de suite. Donc ils sont protégés.
Voilà, Chelsea avait le choix entre le PSG, le Real de Madrid.
Oui, parce qu'on rappelle que les clubs
de Barcelone, Barcelone et Beşiktaş.
On rappelle que deux clubs de même pays ne peuvent pas s'affronter.
Donc, et ce genre de protection sera terminé la saison prochaine, c'est ça, Naïm? Oui. Donc voilà. Bon, nous, j'ai envie de dire nous, au PSG, on sait ce que c'est de tomber sur Barcelone en huitième de finale. Après, Conte, il a été champion d'Angleterre, mais je pense qu'il est venu pour ce genre de match, pour montrer son expérience tactique sur ce genre de rendez-vous. Est-ce qu'il est plus fort que Valverde? A priori, il a plus d'expérience. On parlait d'expérience en première partie. En revanche, son équipe, elle est moins forte que Barcelone, qui d'ici là aura récupéré Dembélé, hein, j'espère. Donc, je vois une machine rouler sur Chelsea. Mais bon, Conte peut faire des miracles peut-être.
Alejandro, Barcelone, oui. C'est deux quarts de finale depuis sa victoire en 2015. C'est pas forcément exceptionnel pour un club de ce standing-là.
C'est vrai, Ils ont envie de retrouver les sommets. Et je pense que Chelsea, ils s'y attendaient beaucoup. En tout cas, les jours précédents, les tirages au sort, tous les pronostics indiquaient que ça allait être Chelsea. Je pense qu'ils sont plutôt contents, ça rappelle généralement de beaux souvenirs, on l'évoquait tout à l'heure. ça permettra aussi de revoir quelques connaissances comme Cesc Fabregas ou Pedro qui ont fait les beaux jours de Barcelone et qui font aujourd'hui les beaux jours de Chelsea.
Puis ça donnera peut-être l'occasion à Messi de marquer contre Chelsea.
C'est vrai aussi. Il y a les souvenirs de 2012 qui restent quand même en travers de la gorge. Et je pense qu'ils sont très contents de ce tirage à Barcelone.
Et face à des Blues qui, on le rappelle, ont quasiment plus que la Coupe d'Europe à jouer, parce que le championnat, ça va être très compliqué pour.
C'est fini. Oui, pour Chelsea, c'est fini. Et puis de toute façon,
on peut espérer, mais...
au sein du club, la priorité est de donner la Ligue des Champions. Et surtout du côté d'Antonio Conte, qui a une revanche à prendre, notamment avec la Juve, où il avait souvent échoué, parfois face à des équipes très faibles, enfin supposées plus faibles que la Juve. Donc il y a aussi une revanche personnelle de Conte de s'affirmer comme un entraîneur de club qui peut gagner en Coupe d'Europe.
Dans son 3-5-1-1,
c'est le gros débat de Conte, c'est qu'il a abandonné son 3-4-3, il n'y a plus que deux joueurs offensifs sur les 11. C'est triste, quoi. Surtout quand on va jouer la lanterne rouge sur son terrain.
Surtout Fabregas, c'est pas tout le temps titulaire. En plus, des fois, il fait Kanté Bakayoko et que quand il n'y a pas Fabregas, c'est quand même compliqué d'avoir des ballons, moi.
Compliqué. Donc, les autres affiches de ces huitièmes de finale, il y aura un Donetsk AS Rome. Ça, c'est le match que personne ne va regarder.
Ça va être un match magnifique. Ceux qui ont regardé le Shakhtar cette saison. Non, sérieusement. Non, le Shakhtar est l'une des plus belles équipes que j'ai vues cette saison. C'est une des équipes qui a causé le plus de soucis à Manchester City.
En tout cas, c'est l'adversaire que le vainqueur, tout le monde voudra avoir en quart, quoi.
A priori, il y aura également un Bayern Beşiktaş, jamais simple. Quand on est le Bayern,
de se déplacer d'être deuxième et parfois de
l'avantage.
Bonheur d'être deuxième.
Après, aller se déplacer à Istanbul, c'est pas forcément.
Oui, entre Beşiktaş, voyez-vous, je préfère Beşiktaş.
C'est vrai.
C'était bien la peine de doubler les Bayern là, si c'est pour voir ce tirage. Hein.
Exactement.
Et puis, du côté des Anglais, Manchester United hérite du FC Séville, qui vient d'en prendre 5 contre le Real Madrid.
Ouais, qui vient d'en prendre 5 contre Madrid. Mais d'un autre côté, si arrivé en Espagne, Mourinho fait du Mourinho, mais tout le monde derrière, c'est pas non plus gage de ressortir avec une victoire à la clé. Donc, moi, je dis méfiance.
Vous allez avoir des problèmes avec Rémy Ngono, vous, décidément. Pour vous, le pire tirage, c'est Chelsea-Barcelone, ou alors est-ce que c'est Tottenham qui devra affronter la Juventus de Turin?
Je pense très sincèrement que Tottenham a plus de chances de sortir la Juve que Chelsea de sortir Barcelone. Après, ça reste la Juve, équipe qui est peut-être moins forte que les saisons précédentes, mais qui a beaucoup d'expérience, beaucoup de talent. Tottenham, on l'a vu ce week-end, est capable de faire des matchs terribles, de dérouler, machin. Après, je te dirais que sans Harry Kane, puisqu'on parlait tout à l'heure potentiellement des absences, sans Harry Kane, cette équipe me paraît considérablement réduite, donc très serré, très ouvert. Moi, je mettrais une petite pièce sur la Juve pour l'expérience.
C'est encore un peu tendre, à mon avis, Tottenham. Même si j'adore son coach, Pochettino, même si Harry Kane me surprend, ça me paraît encore un poil tendre face à Higuain, Khedira, Matuidi, Buffon. Un autre qui veut le ballon d'or, dont on parle de Mbappé, de Neymar et Dybala, qui un jour voudrait son petit ballon d'or aussi. Donc, et qui, à mon avis, le mériterait aussi.
Qui ça, Buffon?
Non, plutôt Dybala.
Qui est moins en forme.
Buffon ne pourra pas gagner la Coupe du Monde, alors que l'Argentine a une chance.
Encore faut-il que Dybala y joue.
C'est vrai.
Qui a fait un début de saison énorme et qui s'est un petit peu éteint.
Il n'associait pas Messi et Dybala pendant les éliminatoires. Peut-être qu'il le fera la Coupe du Monde.
On verra.
Après, Tottenham reste quand même sur en saison Ligue des Champions. Ils viennent devancer le Real de Madrid dans sa poule, éliminer Dortmund. Je suis pas sûr que ça soit la Juve soit très content non plus de rencontrer Tottenham, qui est un attaquant en feu, on parle d'Harry Kane. C'est quand même 50 buts en 48 matchs en 2017. C'est assez énorme. Et c'est une équipe qui monte en puissance, qui est très jeune, mais effectivement qui n'a pas l'expérience en Ligue des Champions.
Pour l'instant, il y a 5 clubs anglais, mais dans quel état seront-ils après le Boxing Day
C'est la grande question
chaque
toujours.
Année,
toujours, ouais.
Lamine
ouais.
un peu les équipes ouais. anglaises, comme il n'y a pas de trêve. Cette année, par exemple, à cause de la Coupe du Monde, en Allemagne, la trêve est de 12 jours, donc tout est raccourci. Et là, en Angleterre, eux, ils n'ont pas ce problème-là. Mais souvent, c'est pas les mêmes clubs anglais qu'on retrouve au printemps par rapport à ce qu'on a vu au début de saison.
Et on souhaite à Liverpool d'avoir un Mohamed Salah toujours aussi en forme, 13 buts en championnat, l'Égyptien. Liverpool qui jouera contre Porto et puis Manchester City qui a hérité de celui dont tout le monde voulait. Voilà, il a eu le cadeau de Noël avant l'heure. Les Suisses du FC Ball. On va libérer Alejandro Valente, merci Réfé d'avoir été avec nous.
Bonne continuation.
Merci, on va finir l'émission avec Dominique Sévrac, Naïm Moniol et Bruno Constant qui sont impatients de parler de Ligue Europa. Et de parler des clubs français, Marseille, Lyon, Nice. une chance au tirage, mais après, on va voir ça avec vous. L'Olympique de Marseille qui est tombé sur les Portugais de Braga en 16e de finale. Et pour Andoni Zubizarreta, directeur sportif à l'Olympique de Marseille, il valait mieux tomber sur Braga que sur Arsenal, par exemple.
Pour respecter tout le monde, c'est vrai que quand il arrive le dernier 4 boules, un de c'est Braga, l'autre c'est Arsenal. Plutôt tu préfères Braga, mais après on verra. Plutôt dans les mois des fervures, on va voir. Le football, c'est toujours un jeu dans lequel on a des surprises, des possibilités de jeu. On verra, c'est toujours la vérité du football.
Naïm, on évite Arsenal, mais attention, Braga, ça reste. Enfin, l'OM n'est pas forcément.
C'est surtout l'OM qui n'est pas bon, quoi.
Voilà, c'est ça.
Voilà, Braga, c'est une équipe qui est quatrième du Portugal, avec un effectif très jeune. Voilà, il n'y a pas de grande star dans cette équipe. Il y a le petit Bruno Xhadas dont on parle beaucoup. Il y a l'Égyptien Coca, également Ahmed Assam devant qui marque quelques buts. Le problème, c'est que l'OM a fait une phase de poule très moyenne, pour ne pas dire autre chose. Pas fichu de battre Salzbourg. Enfin bon, c'est quand même très brouillon ce qu'on a vu. Donc voilà, l'OM serait favori si vous, parce que en termes de notoriété, ou on pourrait dire l'OM, mais globalement dans le jeu, cet OM-là n'a aucune certitude au moment de jouer Braga.
La Ligue Europa pour Dominique, l'OM en championnat ça marche. Mm-hmm. La Ligue Europa c'est compliqué. Est-ce qu'il faut pas se servir de l'un pour réussir dans l'autre? Est-ce qu'il faut pas se servir de la dynamique du championnat pour,
oui.
Pour
réussir en Ligue Europa? Ça commence déjà à chouiner, ça commence déjà à pleurer du côté de Rudy Garcia, parce que le match c'est 3 jours avant le PSG-OM de championnat. Donc ça commence déjà à dire ah oui, mais on peut pas jouer à 19h, on a demandé
c'est,
à l'UEFA.
C'est quand même une drôle de mentalité.
Voilà, c'est très français.
C'est très français. La Coupe d'Europe et se plaindre
parce que je crois que les footballeurs peuvent jouer, c'est pas des rugbymen, quoi. Ils peuvent jouer à peu près tous les 3 jours, hein. C'est pas du tout la même demande d'énergie et le même sport de contact, même si ça reste un sport de contact. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont retourner au Portugal, mais sans Patrice Evra, parce que la dernière fois qu'il y allait, il nous a fait un joli high kick. Donc ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Mais on demande aux autres de bien se comporter quand même, hein.
Pourtant, dans l'effectif de l'OM, il y a des joueurs qui sont censés avoir le niveau européen. On voit un effectif, je sais pas moi, Luis Gustavo, Dimitri Payet,
ça dépend duquel on parle,
s'il a pas le niveau européen, ça
dépend duquel on parle. Dimitri Payet, parce que celui des 6 derniers mois, non, il a pas le niveau européen. Je pense même pas qu'il sera à la Coupe du Monde à ce niveau-là, mais des grands joueurs, honnêtement, des joueurs très bons de niveau européen, il y en a beaucoup à l'OM.
Moi, je trouve de niveau Ligue Europa.
Il y a Mandanda.
De niveau, on parle pas de la Ligue des Champions.
Si on regarde le niveau de la Ligue Europa cette saison, c'est Dortmund, c'est le Milan AC, c'est l'Atlético, c'est Arsenal. Ça, c'est quand même des gros clubs. C'est largement au-dessus, ces clubs-là.
Donc, ils la gagneront pas, hein. On peut déjà le dire, hein. L'OM la gagnera pas, hein.
Non, c'est clair. Même Lyon et Nice, je pense.
Mais je suis même pas sûr qu'ils sont capables de passer ce tour-là.
Non, mais oui, c'est ce que je dis. C'est très moyen. C'est très compliqué parce que Braga, c'est un peu la condescendance française qu'on a vis-à-vis des championnats un peu mineurs. On dit, ouais, c'est le championnat portugais.
Braga, ils ont été en finale, hein.
Ouais, mais bien sûr, en 2011. Dès que t'évites Porto et Benfica, c'est bon, ce Braga, ce machin. Ouais, mais regardez ce qu'a fait l'OM contre Guimarães. Donc,
à la limite, ça aurait été mieux qu'ils jouent un gros, vraiment un gros, et que qu'on les voit face à ce genre de club. Parce que là.
Après, je vais vous dire un truc, hein. L'OM a aussi un mercato pour travailler. Il y a un petit peu plus d'argent aujourd'hui qu'à l'époque de Margarita Louis-Dreyfus. On connaît les chantiers à peu près prioritaires à l'OM. Donc l'OM peut aussi travailler dans les 2 mois qui arrivent pour renforcer son équipe.
Ouais, ils pouvaient travailler aussi cet été, hein. Ils ont fini par prendre
Micro. Je suis bien d'accord.
Ils avaient 2 mois et demi pour finir par prendre Micro.
Je suis entièrement d'accord
sur
avec
le banc
toi,
contre
Dominique.
Saint-Etienne dimanche.
Je suis entièrement d'accord avec toi, Dominique, et Valère Germain qui a juste marqué ses premiers buts en championnat au mois de décembre. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc l'OM peut aussi travailler cet hiver pour avoir plus de certitude. Maintenant, si on se fie sur ce qu'on a vu sur la phase de poule, l'OM n'est pas favori.
Du côté des autres clubs français, Nice hérite du Lokomotiv Moscou qui est leader du championnat russe avec.
Mais lui, il a joué la Ligue Europa avec Nice. Lui,
finalement, on reproche souvent aux clubs français de ne pas jouer la Ligue Europa. Les 3 ont passé la phase de groupe, c'est déjà ça.
Oui, mais pas s'en satisfaire. Pas de manière spectaculaire. Hein.
Après, avec des groupes abordables, c'est aussi. Pas la Ligue 1.
Non, mais
c'est la première ligue, ce qui est spectaculaire.
La journée, combien de français du côté. La journée, 0, je crois.
Donc pour Nice, ça va être compliqué. Ça risque d'être aussi très compliqué pour Lyon, qui est tombé sur Villarreal. Et Bernard Lacombe, conseiller spécial du président Jean-Michel Aulas, ne tarit pas d'éloge à l'égard de Villarreal.
Villarreal, c'est l'équipe, on dit un petit peu un petit Barça. C'est une équipe qui joue remarquablement bien au football.
Je les ai vus évoluer pas mal de fois. Bon, aujourd'hui, c'est une équipe différente de celle d'il y a quelques années, il est vrai. Mais c'est du très très solide, surtout dans la qualité technique. Et puis c'est une équipe, je crois, qui doit être 5 ou 6e dans le championnat d'Espagne. C'est quand même quelque chose de très intéressant.
Villarreal, petit Barça, Naïm,
je trouve que c'est un petit peu exagéré. Ouais, c'est un petit peu exagéré de dire ça. C'est vrai que l'équipe, depuis l'arrivée de Caillera, joue mieux parce que, voilà, à l'époque d'Escriba, c'était un peu le foin et pas uniquement dans le jeu, dans le vestiaire. Voilà, ça se passait mal. Caillera a un petit peu modelé tout ça. Il y a des joueurs de qualité. Fornals qui joue en 10. Il y a le petit Rodri qui est successeur de Busquets en équipe d'Espagne. Il y a quelques arguments. Maintenant, c'est quand même une équipe qui prend des buts, Villarreal. Qui a pas une défense terrible. Et si Lyon aborde les matchs comme on l'a vu parfois en championnat contre Monaco, voilà, avec tout le monde défend, tout le monde est solidaire et on n'attend pas les mains sur les hanches que Touzard et Aouar ramènent le ballon, Lyon peut passer. Je pense que ça serait paradoxalement plus de chances d'avoir Lyon passer que Nice face à Moscou. Mais après, il faut que Lyon se mette au diapason et que ses individualités, que Mariano, et puis même fils de paille, fassent des matchs de niveau européen.
C'est pas un petit Barça, mais moi j'ai regardé Villarreal Barcelone dimanche. Ça joue bien quand même. Ça, techniquement, je pense que c'est
pas mal. Dire que c'est un petit Barça, je trouve.
Non, mais ça c'est sûr. De toute façon, c'est genre de comparaison. Mais le match que j'ai vu de Villarreal face au Barça, c'est un match très solide, très technique, avec des grosses occasions pour Villarreal qui aurait pu ouvrir le score. Ils ont perdu finalement 2-0. Franchement, cette équipe-là, elle peut vraiment ennuyer Lyon. Mais bon, elle joue, elle ouvre. Ça peut aussi.
Ouais, c'est une équipe qui peut.
Il va y avoir deux beaux matchs.
Et donc, à noter quand même que t'as Cédric Bakambu. International congolais de la RDC, qui lui pour le coup fait une super saison, comme depuis 2-3 ans tout le monde pensait que Baka allait être l'attaquant numéro 1, maintenant pas du tout. Bakambu tient la baraque, qui est très très bon, très régulier.
Donc voilà, c'est un Sochalien.
Alors c'est un Sochalien, voilà, donc poison numéro 1 pour la défense de Lyon.
Allez, on va rappeler au passage les quelques affiches de ces 16e de finale, notamment pour les favoris. Pas de club français favori, on vous a bien compris, mais on a Dortmund qui affrontera les Italiens de l'Atalanta à Bergame, ça c'est prometteur. L'AC Milan hérite de Ludogorets, très jouable pour eux. Il y a le choc entre Naples et Leipzig, ça c'est absolument l'affiche à suivre pour tous les amateurs de football. Et puis Arsenal, le club anglais qui jouera contre Östersund. L'Atlético de Madrid lui hérite des Danois du FC Copenhague. Arsenal, on suivra ça en 2018, bien entendu.
Pour le trophée final, Arsenal.
Et avant ça, on va parler d'Angleterre avec une affaire de musique trop forte, pas seulement. Après la victoire de Manchester City 2-1 à Old Trafford dans le derby contre United, c'est un bête conflit de voisinage qui a dérapé finalement. Une altercation s'en est suivie et on a mis la main sur le document sonore de cette altercation.
En portugais.
Hello, à tout point de bruit, s'il vous plaît.
José Mourinho, le Louis de Funès mancunien, c'est ça, hein.
C'est ça.
À peu près, c'est comme ça que ça s'est passé.
C'est moins drôle quand même.
C'est comme ça que ça s'est passé. Mourinho qui est allé dans le vestiaire des Citizens parce qu'il trouvait que les célébrations de victoire étaient un petit peu trop audibles à son goût. Il a été viré par les joueurs de City, aspergé, semble-t-il, de lait. Enfin, voilà, on en est là. C'était suffisant pour provoquer une bagarre dans laquelle un membre de City a été blessé. Mikel Arteta, qui aurait été très légèrement blessé, ancien parisien. Mourinho, furieux, mais on l'avait déjà senti en conférence de presse d'avant-match qu'il n'était pas content.
Lorsque vous regardez Manchester City jouer, vous vous attendez à ce qu'ils mettent de très jolis buts et non pas de marquer des buts aussi scandaleux. Ce sont les derniers buts que vous vous attendez à concéder contre une équipe de cette qualité. Deux très vilains buts, l'un d'un corner et l'autre d'un coup franc avec un rebond et surtout beaucoup de chance. Alors oui, ils ont eu le contrôle sur la rencontre puisqu'ils avaient la possession. Mais le plus gros arrêt du match, c'est la double parade de leur gardien. Enfin, la plus grosse décision du match, c'est malheureusement celle de l'arbitre.
La faute aux arbitres, bref, un résumé à la Mourinho, Bruno Constant. Est-ce que vous vous retrouvez dans le résumé de la rencontre par José Mourinho ?
On retrouve surtout José Mourinho, la mauvaise foi totale, le déni total d'une équipe qui était inférieure à son adversaire, d'un entraîneur qui a échoué tactiquement dans cette bataille avec Guardiola, qui a mis entre guillemets tous ses pions offensifs, quatre attaquants alignés devant sans aucun plan de jeu, un milieu de terrain qui était totalement isolé, enfin c'était Ça n'a pas été une démonstration de City, parce que ça n'a pas été un grand match, mais les conséquences sont énormes, parce que le titre est quasiment joué. Bah, 11 points d'avance, ça va être très compliqué, même si on rappelle du côté de United que en 2012, City avait compté 8 points de retard à 6 journées de la fin, et ils avaient doublé United sur le fil. Donc il y a toujours un petit peu cette expérience-là. Mais ce qui s'est passé, et quand on repart, donc ça s'appelait le Millgate du lait, faut quand même, c'est venu quand même de Mourinho. C'est Mourinho qui a mis l'étincelle, en allant, entre guillemets, un peu provoqué et reproché aux citizens de célébrer comme s'ils avaient gagné le titre. Et c'est quand même un entraîneur qui, pour la millième d'Arsène Wenger sur le banc d'Arsenal à Stamford Bridge, alors que son équipe menait déjà 4-0, Mourinho exhortait ses joueurs à attaquer pour les mettre le cinquième, pour les mettre le sixième. Donc quand il parle de montrer le respect de la part des citizens, c'est dommage parce que il y a Ian Wright, qui a l'ancien gunner, qui a dit très justement que Mourinho a été intelligent sur le coup. Il aurait pu s'en servir en disant à dire à ses joueurs, mais écoutez ce qui est en train de se passer. On a l'impression qu'ils ont gagné le titre. Voilà, pour eux c'est fini. Montre-leur que c'est pas fini. Et au lieu de ça, il est tombé un peu, pas dans le piège, mais dans une bassesse assez hallucinante et qui, en tout cas, déçoit beaucoup de supporters de Manchester United. Et ça fait déjà plusieurs fois que les supporters se plaignent de l'attitude de Mourinho, de l'image qu'il est en train de donner du club, aussi bien sur le terrain où United personnalité, son identité qu'en dehors.
Justement, Dominique, Mourinho, c'est devenu une caricature de lui-même d'une certaine manière. On peut dire
oui,
ça.
Oui, c'est honteux. C'est honteux ce qui s'est passé. Imaginez que ça se passe à un Marseille PSG. Qu'est-ce qu'on dirait pas sur le championnat français, immature, petit, ridicule, mesquin. Là, c'est le championnat le plus médiatisé au monde. Alors, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas de son encore. Ça me paraît surprenant dans ce monde où tout le monde avec son téléphone peut capter tout ce qu'il veut. Mais ça viendra peut-être. C'est une image du championnat le plus diffusé au monde, le plus puissant économiquement, qui est affreuse. Mourinho, effectivement, se caricature. Il reste sur... Il reste ce manager qui, partout où il passe, laisse des clubs exsangues et les détruit un peu. Il a fait beaucoup de mal au Real Madrid, malgré le titre de champion d'Espagne. Il a fait beaucoup de mal partout où il est passé, souvent. À Chelsea, ils ont eu du mal à tourner la page. Ça serait pas normal qu'il fasse du mal à Manchester United, qui est une institution et qui avait trouvé avec lui le premier manager un peu crédible depuis le départ de Sir Alex, après les passages de Moyes et de Van Gaal qui ont été des échecs. Donc voilà, bon, il avait pas Pogba sur le terrain, il a ce qui est vraiment une perte considérable, surtout le Pogba qui revenait bien de blessure. C'est pas une raison pour donner cette image là lamentable de lui-même. Il est pénible parce que c'est un personnage fascinant qui a gagné beaucoup de Ligue des Champions, qui est même si son football est ennuyeux souvent à voir, avec beaucoup plus d'éléments défensifs qu'offensifs, c'est quand même dommage parce que c'est la figure la plus connue au monde des managers, c'est la star des entraîneurs, c'est dommage qu'il s'abaisse à ça.
Au-delà de son comportement là sur ce match-là, Naïm, finalement, on peut se demander, José Mourinho, est-ce qu'il est vraiment soluble dans la philosophie Manchester United, qui prenait le beau jeu et c'est pas tellement Mourinho, et puis qui prône une certaine forme de classe, de standing.
C'est sûr que c'est pas le Manchester de United de cette année, ne prône pas ni le beau jeu ni le standing, en tout cas dans les grosses rencontres. C'est pour ça que moi il m'énerve d'ailleurs, c'est que tous les grands matchs les grosses oppositions de Manchester United, mis à part la victoire contre Arsenal, mais ça a été des matchs comme ça, c'est une défaite contre Chelsea, c'est un nul contre Liverpool, insipide. Mais ce qui en plus m'énerve, c'est que si on était à une époque où tout à l'heure Dominique parlait de l'époque Moïse et Van Gaal, s'il y avait cet effectif avec des joueurs en fin de cycle ou d'autres qui n'ont pas le niveau, je pourrais comprendre. Mais quand vous avez dans votre équipe, alors Pogba ne jouait pas, mais quand vous avez Matic, Young, Herrera, quand vous avez Valencia, quand vous avez Mkhitaryan, voilà, quand vous avez des mecs qui savent jouer au ballon, Juan Mata, des types qui savent jouer au ballon, qui savent faire de la possession, qui savent faire du jeu, aligner quatre attaquants pour laisser tout le monde dans les 30 derniers mètres, je trouve que c'est plus que des négations de football, c'est se foutre de la gueule du monde. Alors et les supporters de United ne méritent pas ça. Alors on peut se cacher derrière sa Ligue Europa, oui, il a gagné une Ligue Europa, c'est vrai, il arrive, premier titre, c'est une Coupe d'Europe, très bien, parfait. Mais très sincèrement, il sera pas champion d'Angleterre avec ce qu'il a fait là, et il sera certainement pas vainqueur de la Ligue des Champions.
Ses choix tactiques sont discutés.
Il peut gagner la Ligue des Champions, Naïm. C'est désormais son, ouais, ça va être son objectif, ouais, ouais, majoritaire.
Mais d'ailleurs, c'est ça, parce que
on sait qu'il sait faire.
Bien sûr. Ce qui peut passer contre l'Ajax et contre le Celta Vigo passera peut-être moins contre le Real et contre le PSG.
Ouais, mais il l'a fait avec
se souvenir, alors c'était en tout début de saison, mais faut se souvenir de la Super Coupe d'Europe qu'a joué le Manchester United contre le Real de Madrid. Il y a une première mi-temps qui était à sens unique pour le Real Madrid. La deuxième, qui était très, très intéressante de Manu, qui avait fait beaucoup de mal au Real de Madrid. Et ça ressemble un peu à un mariage de raison entre United et Mourinho. C'est que l'un se sert de l'autre.
Mourinho pour gagner des trophées, encore une fois pour son palmarès personnel, et puis United pour revenir au sommet du football anglais et peut-être même européen. Ça correspond pas forcément à leur philosophie, mais pour l'instant il a gagné des trophées, il joue le titre malgré tout, il est deuxième du championnat derrière Manchester City, donc il joue le titre pour sa deuxième saison, et surtout en Ligue des Champions il a montré des choses et il croit encore, les dirigeants croient encore que Mourinho pourrait les amener au sommet.
Et malgré des rumeurs infondées l'envoyant au PSG, il est plutôt en train de prolonger à United. Hein.
Et au final, dans le cadre de ce match-là, est-ce que c'est pas le énième épisode du complexe Guardiola que Mourinho nourrit depuis des années? Est-ce que ça peut pas expliquer un petit peu aussi?
Il avait presque fait un câlin au début.
C'était
incroyable.
Ils ont fait une poignée de main comme jamais.
C'était tellement incroyable. Mais surtout de la part de Mourinho, qu'elle a fait trop, j'ai trouvé.
Il y avait de la fumée, tellement il y avait de l'hypocrisie dans cette poignée de main. Mais ça ressemble effectivement au complexe d'infériorité, ce qui s'était passé entre le Real de Madrid, enfin, quand il était au Real de Madrid et Guardiola à Barcelone, où il était comme capable de faire péter les plombs en fait au camp adverse en provoquant, souvent en mettant l'étincelle. Là, c'est ce qu'il a fait, et c'est juste une étincelle pour amener le feu et pour surtout un contre-feu pour pas qu'on parle de ces échecs dans le jeu au niveau tactique. Donc ça ressemble un petit peu à ça, et le problème c'est que autant quand il était au Real, ils étaient dans deux villes différentes, séparées. Là, ils sont dans la même ville, ils ont à peu près les mêmes budgets, les mêmes moyens en transfert, donc la coopération elle est facile, et pour l'instant il y a 11 points d'écart.
Dominique, d'une certaine manière, c'est fait pour faire parler de lui, José Mourinho, plutôt que de parler de Guardiola, et il a réussi.
Ah bah exactement, c'est le contre-feu, le make gate lui permet de ne pas parler de l'avance tactique de Guardiola qui, et à Barcelone et à City, lui donne la leçon à chaque fois.
Et qui a Naïm, oui. Guardiola qui réussit à faire notamment d'Otamendi un joueur potable.
Donc, ouais. C'est peut-être ça son vrai miracle. C'est pas tout mauvais non plus, Otamendi, au départ. Après, ce que Guardiola arrive à faire avec City pour sa deuxième saison, c'est monstrueux. De son City, c'est la meilleure équipe du monde sur la première partie de saison. Donc je ne sais pas quel sera son niveau en deuxième partie de saison après un Boxing Day avec des blessures, mais
ils sont quand même à 14 victoires consécutives.
14 victoires, c'est un record.
Bon,
ce qui fait d'Otamendi un joueur moyen, un bon joueur. Il fait de De Bruyne un bon joueur, un top 5 mondial. Tout le monde enterrait Agüero, finalement il enquille les buts. L'intégration de Gabriel Jesus se passe très bien.
C'est ça la différence entre Mourinho et Guardiola, c'est qu'il y en a un qui fait progresser ses joueurs. Le plus bel exemple, c'est Sterling, qui était un joueur surcoté, qui était un joueur qui avait du talent mais surcoté. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est décisif, qui marque des buts hyper importants. Et de l'autre, Mourinho, des joueurs qui joue pour lui mais qui progresse pas vraiment, et on le voit à United.
City gagne la Ligue des Champions, Arsenal la Ligue Europa, voilà, vous avez les trophées.
Le pronostic de ce 12 décembre signé Dominique Sévrac. Si vous pariez là-dessus et que vous récupérez de l'argent, vous saurez à qui écrire. Merci beaucoup Dominique Sévrac, merci beaucoup Naïm Moniol et Bruno Constant, merci à Guillaume Ploquin et David Finzel pour la préparation de cette émission. Nous on se retrouve demain.